Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à tous, très bon lundi. Il est 8h sur RMC.
RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les députés font leur rentrée aujourd'hui à l'Assemblée et avant le chantier du budget, eh bien ils se lancent dans l'examen de la proposition de loi contre les violences sexuelles. Trois mois après la dramatique affaire Liana, on va largement en parler. Nous irons en Allemagne dans ce journal où l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans un de ses bastions de l'Est du pays après sa large victoire aux élections régionales. Et nous serons également à l'US Open de tennis avant le match d'Arthur Géa, la sensation française repêchée après les qualifications et qui jouera la nuit prochaine à 8 de finale.
Trois mois après l'affaire Liana, place donc à la loi.
Oui, chacun se souvient de cette dramatique affaire qui avait mis en lumière les failles de notre système judiciaire. Et bien avant même de se lancer dans le chantier du budget, les députés discuteront à partir d'aujourd'hui en commission, puis le mois prochain dans l'hémicycle, de la proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles. Thomas Becker, du service politique, avec cette loi, l'idée eh bien, c'est de couvrir toute la chaîne de violence.
Oui, d'abord dans la police, avec la création d'une unité spéciale au sein de la police judiciaire pour traiter les cas de violences sexistes et sexuelles. Changement pour les méthodes d'enquête, revues pour préserver les preuves et rechercher d'autres victimes avant un potentiel classement. Côté justice, mise en place d'une juridiction spécialisée dans les tribunaux et les cours d'assises. À l'école, les enfants, dès la maternelle, auront un entretien annuel pour détecter des victimes potentielles. Le texte prévoit aussi un contrôle d'honorabilité pour toutes les personnes susceptibles d'être en contact avec des enfants. Une soixantaine de mesures, de formation, d'écoute, d'accompagnement. Budget estimé 3 milliards d'euros par an. La ministre Aurore Berger juge que le coût de la réforme ne sera pas un obstacle, alors même que le gouvernement, à la veille du débat budgétaire, est en pleine recherche d'économies.
Et ça reprend comme avant les grandes vacances. De nouvelles manifestations sont annoncées devant les tribunaux partout en France en fin de journée. On attend toujours les résultats définitifs ce matin en Allemagne pour connaître l'ampleur de la victoire de l'AfD, le parti d'extrême droite aux élections régionales de Saxe-Anhalt. C'est un de ses bastions dans l'est du pays. L'AfD est donné à 44% des voix, loin devant le parti du chancelier conservateur à même pas 18%. On va retrouver Clémence Dibou qui est sur place. Aucun parti d'extrême droite n'a dirigé de région en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui donne une portée historique à ce vote. Et la secousse se ressent au niveau national.
Les dirigeants de la CDU, le parti conservateur au pouvoir et en Saxe-Anhalt et à Berlin, avaient prévu, en cas de large victoire de l'AfD, il faudrait une prise de parole non plus au niveau local mais au niveau national. Ça devrait être fait aux alentours de midi avec la prise de parole de Friedrich Merz, le chancelier conservateur, qui s'était engagé personnellement à faire baisser le score de l'AfD. On voit donc que ce résultat a des répercussions nationales aussi, des répercussions dans le camp des sociaux-démocrates avec des démissions en cascade, avec des résultats catastrophiques, moins de 5% désormais. Eh bien, l'enjeu, c'est de faire une large alliance de barrage à l'extrême droite, des conservateurs jusqu'à l'extrême gauche. Ça reste encore très compliqué vu les scores très élevés de l'AfD. L'AfD qui a expliqué qu'elle essaierait de faire des alliances, mais qu'elle n'avait aucune envie de faire aucun compromis sur son programme. Et ses scores sont tellement hauts qu'elle est à quelques sièges de pouvoir gouverner seule.
Et alors cette élection en Allemagne anime depuis hier soir la campagne présidentielle chez nous en France. Romain Hougan direct ce matin. La gauche et le centre s'inquiètent de ce résultat.
Oui, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. C'est une catastrophique démonstration de l'aveuglement des politiques européennes centristes, écrit le candidat LFI à la présidentielle sur ses réseaux sociaux. Ce n'est plus un avertissement, c'est un ordre de mobilisation générale qu'il faut lancer, écrit quant à lui le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui sera d'ailleurs l'invité d'Apolline de Malherbe dans une demi-heure. Au centre de l'échiquier politique, c'est Gabriel Attal, chef de file et candidat du parti présidentiel, qui fait part de ses préoccupations. Ce résultat est un vrai signal d'alarme dont il faut tirer les enseignements, dit-il. Enfin, du côté du Rassemblement National, autrefois allié européen de l'AfD, silence radio depuis hier soir. Ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont pour l'heure commenté ce résultat.
La campagne présidentielle est aussi animée par Marine Le Pen qui écrit au Buraliste une lettre publiée hier soir dans laquelle elle défend le gel des taxes sur le tabac au moment où la Confédération des Buralistes appelle à la mobilisation face à la hausse des prix et l'essor du marché parallèle. C'est aussi la campagne, elle est aussi animée par cet appel lancé par le patron des magasins Casino pour aider les commerçants des centres-villes et des zones rurales. En expliquant que les commerçants se détournent de plus en plus des grandes surfaces loin des centres, la preuve ici, vous allez l'entendre à Aix-en-Provence avec Charlotte Guerre.
Ses courses du quotidien, Jérôme préfère les faire à pied et en ville. Il a en horreur les grandes surfaces.
Mais on perd trop de temps. D'abord, c'est la circulation, c'est du stress. Plus d'une heure dans un supermarché, c'est pas possible.
Ce professeur de lettres a même ses petites habitudes.
Les produits d'entretien, je vais les prendre là. Les produits du petit déjeuner, je vais les prendre là. Les céréales, les produits, voilà. J'ai ma petite liste, mais ça, c'est aussi ce qui s'est fait avec le temps.
Avec des loyers moins élevés et plus de stocks, les hypermarchés restent attractifs avec des prix plus bas, même s'ils sont en dehors des villes.
En mettant même 20 euros de gasoil, c'est plus rentable de partir loin dans une grande surface que partir à côté faire mes courses.
Je fais mes courses avec un drive parce que en fait les magasins de proximité sont super chers.
Ce trentenaire n'a pas le permis. Lui se fait livrer ses courses directement chez lui.
Même si le coût des produits est un peu plus élevé sur une livraison, il reste quand même moins élevé que celui dans les petites supérettes.
Mais il l'admet, les commerces de proximité restent pratiques pour les courses d'appoint. Un enjeu d'autant plus important que plus de 6 communes sur 10 ne disposent aujourd'hui d'aucun commerce de détail.
C'est la très belle histoire de l'US Open de tennis qui a lieu en ce moment, vous le savez, aux États-Unis, à New York. Il y reste un Français, c'est le jeune Arthur Géa, âgé seulement de 21 ans. Ils n'étaient même pas qualifiés pour le tournoi final, repêché à la dernière minute après un abandon. Il joue crânement sa chance depuis et il va donc se retrouver la nuit prochaine à disputer un huitième de finale contre un joueur néerlandais. Eric Salio, vous couvrez l'US Open. On imagine que ses proches et en premier lieu sa maman sont fiers.
Oui, Cécile Géa a quitté son petit village du Vaucluse pour rallier New York. Et même si elle se refuse à voir les matchs en tribune, elle reconnaît les qualités de son fils.
Il est très travailleur, il est besogneux, il aime la difficulté, il aime les challenges. Il a monté le Ventoux avec son père alors qu'il n'était pas du tout entraîné. S'il pouvait, il monterait le Mont Blanc et pourquoi pas l'Everest. Il aime se challenger sur des grosses performances. C'est un garçon qui a beaucoup d'émotions et qui vit avec ses émotions.
La maman d'Arthur Géa sait que l'atmosphère est unique à Velleron, près de Carpentras.
Il y a un bar où il y a l'écran géant. Personne ne dort le jour des matchs parce que moi j'ai halluciné. Jusqu'à 3h du matin, je recevais des messages. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez pas? Ah non, non. On a regardé les matchs. Arthur, c'est un enfant du village. Mon mari est allé à l'école dans ce village. C'est vraiment une grosse communauté et tout le monde est très fier d'Arthur. Et ça, c'est génial.
Ce soir, c'est toute la France qui vibrera pour le 8e de finale d'Arthur Géa face au néerlandais Botik van de Sandschoop.
Bon, et puis on se demandait à quoi allait ressembler la saison en football de l'Olympique de Marseille sans aucune recrue, vous le savez, durant l'été. Eh bien, on en a une petite idée hein, depuis hier soir et la nouvelle défaite des Marseillais battue 3-2 par le Paris FC. Ça se passait au Vélodrome. Tiens, qu'en dit l'entraîneur de l'OM, Bruno Genesio?
On a fait une entame catastrophique. Je trouve qu'après, on a pris le dessus, on a plutôt maîtrisé. Et après, on en a un petit peu tout confondu jusqu'à la mi-temps. C'est un peu précipité, on a manqué de lucidité. On a laissé beaucoup trop d'espace à cette équipe qui a exploité au maximum toutes les erreurs qu'on a pu faire parce qu'on ne peut pas espérer un autre résultat avec le nombre d'erreurs défensives que l'on a faites.
Allez, c'est Monaco qui est en tête de la Ligue 1 après 3 journées.
Il est 8h08 sur RMC. Vous parliez, tiens, à l'instant, Quentin, de cette proposition. Travailler le dimanche, c'est ce que demande le patron de Casino. Il y a Pierre qui nous appelle au 32-16 et qui voulait réagir. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Pierre, le poissonnier quasi officiel, on peut le dire, d'Apolline Matin. Vous êtes poissonnier, Pierre. Vous tenez les marchés, notamment à la Garenne-Colombes. Pierre, vous, ça vous ferait de la concurrence déloyale si tous les magasins sont ouverts le dimanche?
Alors oui, un peu quand même, parce que déjà ça, ils sont ouverts depuis ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ouverts le matin, Monoprix, Intermarché. Ouais. Mais le problème c'est que dans ces petits magasins, ils ont pas de personnel. C'est des caisses automatiques, il y a personne qui travaille, il y a qu'une seule personne qui reste, un surveillant. Et si ça peut amener des gens à avoir de l'argent en plus et travailler le dimanche pour ceux qui veulent, ben moi j'estime qu'il y a pas de problème.
Vous de fait vous travaillez le dimanche depuis des années.
Ah ouais, ça fait 35 ans que je fais ça moi.
Vous êtes toujours volontaire, pardon, mais c'est la question aussi qu'on posait tout à l'heure, c'est que on peut être volontaire au début, mais est-ce qu'à un moment ça devient pas une souffrance de travailler le dimanche?
Pas du tout.
Non.
C'est au contraire.
Ça vous va.
Ah moi ça me va, les jours fériés je peux travailler tous les jours et de toute façon sur le marché on travaille tous les jours fériés et tous les week-ends, il y a pas de, c'est les règles du marché.
Ça et de fait j'imagine qu'aujourd'hui c'est relâche quand même, Pierre. Le lundi, on se repose?
Lundi, aujourd'hui, on est repos.
Bon,
et c'est bien parce que tout le monde part à l'école, ils sont tous au travail, je suis tout seul dehors.
C'est votre journée tranquille. Merci Pierre, en tout cas, d'être venu réagir au 32-16. Pierre, qui est poissonnier, donc notamment sur le marché de la Garenne-Colombes. Il est 8h10 sur RMC. Et ce sont les députés qui, en commission, vont examiner à partir d'aujourd'hui la loi dite intégrale pour lutter contre les violences sexuelles. Anne-Cécile Maillefer est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fondation des femmes. Vous luttez pour les droits des femmes contre les violences. Cette loi, elle pourra vraiment sauver enfin des femmes et des enfants?
Oui, cette loi, elle est extrêmement importante et je ne suis pas la seule à le penser, hein, puisqu'on est quand même des centaines de milliers à s'être mobilisés, en particulier depuis le meurtre de la petite Liana en juin. C'est un mouvement qui est extrêmement populaire. Cette loi, on la souhaite. Il y a 350 000 signataires de la pétition sur loi intégrale et ce soir, on reprend parce qu'on ne lâche pas
ce
rien.
Ce soir, vous relancez 19h, aussi la mobilisation, vous nous le dites dans un instant,
8h11. RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h15 sur RMC et sur RMC Story. La mobilisation reprend aujourd'hui pour les droits des femmes et contre les violences sexuelles et sexistes. Bonjour Anne-Cécile Maillefer.
Bonjour.
Vous êtes toujours avec nous, vous présidez la Fondation des femmes. Deux points à voir avec vous. La mobilisation ce soir à nouveau dans les villes de France. Mais d'abord, cette loi, la loi dite intégrale, 3 milliards d'euros pour mieux lutter contre toutes ces violences. Est-ce que vraiment ça peut changer les choses?
Oui, c'est hyper concret. C'est par exemple, nous ce qu'on souhaite, c'est que tous les enfants puissent avoir un entretien annuel pour savoir s'ils ont été victimes de quelque chose. C'est déjà évidemment pour repérer hein, les enfants qui sont en train de subir des violences, mais c'est aussi un message d'alerte à tous les pédocriminels de dire en fait, nos enfants comptent, les enfants comptent, on s'intéresse à eux, à ce qu'ils vivent et donc ça ne pourra pas rester impuni. C'est aussi par exemple le fait de pouvoir avoir un arrêt de travail pour pouvoir accompagner son enfant ou alors soi-même pour pouvoir effectuer des démarches. Je prends un exemple très simple. Hein. Vous avez peut-être en tête l'histoire de la petite Milly qui a été retrouvée quasiment morte après avoir été violée en Réunion. Bah, sa maman, elle est ouvrière au 3-8. Et en fait, quand elle a dû l'accompagner pour aller au commissariat, pour aller voir les psychologues, etc., c'est des démarches à n'en plus finir. Évidemment qu'en fait, si elle avait eu droit à un jour d'arrêt avec son employeur, ça aurait été à des jours d'arrêt avec son employeur, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est aussi tout simplement, une fois qu'elle a porté plainte, est-ce qu'il va y avoir des enquêtes ou pas? Le ministre de la Justice lui-même disait qu'il y avait 85 000 dossiers fantômes dans notre pays. C'est-à-dire 85 000 dossiers où quand on porte plainte, il ne se passe rien.
Mais nous, on veut des actes d'enquête obligatoires. Comme la maman de Rosa, en marge de l'affaire Liana, il y a aussi cette affaire, l'affaire Rosa. Rosa qui a été victime du même présumé assassin, violeur de la petite Liana. Elle a porté plainte, elle a été, elle s'est mobilisée, elle est retournée régulièrement voir les enquêteurs, elle leur a dit mais ça en est où? Je vois que Jérôme Maïla est sur les réseaux sociaux, qu'il tente à nouveau de rentrer en contact avec ma fille, et on l'a envoyé bouler.
Même
on lui a dit
ça.
Ne venez plus parce qu'on portera plainte contre vous, madame.
On l'a même accusée de harcèlement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là tous les lundis, parce qu'elle appelait tous les lundis le commissariat. Et nous, tous les lundis, on est là et on ne les lâchera pas, à l'image un peu de son courage et du courage en général de toutes les personnes qui font face à ce système qui est absolument scandaleux. Je veux dire, il faut qu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui en France pour les femmes et les enfants quand ils portent plainte. Je vous le disais tout à l'heure, 85 000 dossiers fantômes, c'est pas des enfants fantômes, c'est pas des violeurs fantômes en fait. C'est à l'instant où on se parle, à vous et moi, ce sont des enfants qui sont en train d'être violés par des hommes contre lesquels il y a déjà des plaintes, contre lesquels il y a déjà eu des signalements, contre lesquels des parents ou des proches ont déjà fait ce qu'il faut. Donc ça ne peut plus durer. Et pour ça, on a besoin d'une réponse intégrale. C'est-à-dire qu'on en a marre des petites...
Ça veut dire quoi, intégrale?
Intégrale, ça veut dire qu'il y en a marre des pansements sur les jambes de bois, il y en a marre des coups de com' à deux balles. Nous, on veut que la vie des femmes et des enfants, elle change, que les enfants soient protégés. Pour ça, il faut de la prévention. Pour ça, il faut une réforme en profondeur de la police.
Mais quand vous voyez les premiers procès sur le périscolaire à Paris, qui, pour certains, finissent en pchit, il n'y a pas de condamnation. Comment est-ce que vous réagissez?
Mais je pense que c'est ça qui met en colère les dizaines de milliers de Français et de Françaises qui manifestent devant les tribunaux.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que les juges, à la fin, ne prennent toujours pas la mesure?
Oui, effectivement. La société ne prend pas la mesure. Enfin, la société, je trouve qu'elle se réveille un peu. C'est plutôt les politiques et les institutions qui ne prennent pas la mesure du scandale, en fait, devant lequel nous nous trouvons. Et donc, effectivement, il faut que ça s'améliore. C'est pour ça qu'on demande une justice spécialisée. C'est aussi dans la loi intégrale. Et c'est pour ça qu'on demande, entre autres, 3 milliards pour qu'il y ait vraiment les moyens d'avoir des bonnes enquêtes, d'avoir des bons procès et de faire que quand les victimes, elles demandent justice, eh bien, elles puissent avoir justice.
Anne-Cécile Maillefer, vous le disiez, on est là tous les lundis soirs, c'est-à-dire?
Alors, on est là ce soir, à 19h, place Vendôme et dans plus de 100 villes de France. C'est-à-dire qu'en fait, vous rendez compte que ce mouvement qui a déjà mobilisé tout le mois de juin, eh bien, nous reprenons et nous reprenons extrêmement fort et on ne les lâchera pas. pas parce que la vie des femmes et des enfants compte.
Donc ce soir, 19h à Paris, donc place Vendôme devant le ministère de la Justice, mais partout ailleurs devant les tribunaux.
Partout ailleurs, des petites, des grandes villes, des villages, et vraiment tout le monde se mobilise. C'est important, il s'agit de la vie des enfants et des femmes en France. On ne les lâchera pas. Une loi intégrale, votée intégralement avec un budget intégral.
Merci Anne-Cécile Maillefer d'avoir répondu à nos questions. Présidente de la Fondation des Femmes. Il est 8h18 sur RMC, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Et bonjour à tous.
Arnaud Demanche qui est avec nous.
Bonjour Apolline, Mathieu, Arthur, Manu. Alors Apolline, vous le savez car vous êtes une femme d'info, une femme d'affaires, une femme Barbara Gould. Ce week-end, c'était la braderie de Lille.
Ça, c'est une pub pour les anciens.
Ah, vous l'avez. Je me demandais. Ce week-end, c'était la braderie de Lille, c'est ça l'actu. Et là-bas, vous pouviez acheter des tableaux de clowns tristes, des poupées chauves à qui il manque un bras, des figurines de vaches en céramique, des cassettes vidéo de Smaïn, des chaussures de ski des années 70, un trivial poursuite de 87 avec des questions comme « Qui est l'actuel Premier ministre de Tchécoslovaquie ?» Des cendriers Ricard volés dans des bistrots, des livres de François Léotard, « Oh chouette !» dit Manu Le Chiffre, des CD de titres de Too Unlimited, c'est un vieux groupe Arthur, des puzzles auxquels il manque des pièces, ou bien des Santiago qui sentent l'odeur des pieds de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'Emmaüs a refusé, vous pouvez le trouver à la braderie de Lille, sur le trottoir. Et c'est aussi pour ça que sur le trottoir, il y avait aussi plein de candidats à la présidentielle avec leurs idées d'occasion. Comme Jean-Luc Mélenchon, la collectivisation, c'est super. Faut faire comme au Venezuela, ça cartonne. Ou Gabriel Attal, j'ai un super programme macroniste d'occasion. Et alors Gabriel Attal, ce week-end, authentique, il a enchaîné la braderie de Lille. Après, il a fait une fête populaire à Toulouse et hier, la fête des moissons à Rouen. Ah, ça va, c'est cool le boulot, c'est tranquille. Tous les week-ends, aller bouffer des frites et du pâté. On va finir par le retrouver en boîte de nuit.
Bonsoir, je peux avoir un mojito, hein? C'est parce que je fais campagne, en fait, c'est ma présidentielle. Et je reviens de la braderie de Lille.
Ma présidentielle.
Je reviens de la braderie de Lille. J'ai la tête comme ça. On a essayé de me refourguer un disque de la Grande Sophie à 1 euro et un programme de la Grosse Marine à 2 balles. Je suis éclaté. En tout cas, à force de manger des saucisses et boire des bières, dans 3 mois, Gabriel Attal, c'est François Hollande. Il va faire 104 kilos. Il va arriver dans le face-à-face défoncé. Gabriel Attal, bonjour. Le petit bonhomme en moussin. Ips. Ips. Excusez-moi, j'ai le hockey. Ips. Ips. J'ai passé la nuit à bosser avec Patrick Sébastien et une fanfare. J'ai bu trop de panaché. Je suis défoncé.
C'est bon. Merci Gabriel Attal. Allez, c'est la rumeur du moment. Apparemment, rien ne va plus entre Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Oui, sortez les pop-corns. On va se régaler pendant cette présidentielle. C'est les feux du désamour.
Et dans les épisodes précédents, Marine a douché les espoirs du jeune Jordan en reprenant sa place. Depuis, rien ne va plus dans le couple.
Jordan, finalement, je vais me présenter. Mais tu peux pas me faire ça. Je vais passer pour un loser. Je vais me faire larguer par Maria Carolina de Bourbon, des deux Siciles, des trois petits cochons et des 12 travaux d'Astérix.
Alors, selon Libé, Jordan Bardella aurait quitté une réunion après que Marine Le Pen ait proposé de donner plus de visibilité à Marion Maréchal. Eh ben, déjà qu'il était contre le regroupement familial, ça va pas s'arranger. Il découvre qu'il s'appelle Bardella, en fait. Ouais. Il s'appelle pas Le Pen et il bosse pour un clan. Là, maintenant, sa seule solution, c'est de quitter sa princesse et de se remarier avec Jeannie Le Pen, la veuve de Jean-Marie, 94 ans. Vous rigolez, mais Macron, il le ferait.
Mais oui, 64 ans de différence. Qu'est-ce que c'est quand on s'aime? Moi, je la trouve charmante, Jeannie. Mais Brigitte Du coup, Bardella a fugué ce week-end à Londres pour faire honte à Marine, entraînant avec Nigel Farage, un pro-Brexit. Et là-bas, il a signé un accord promettant que la France reprendrait les immigrés clandestins que les Anglais veulent pas. Donc, il a décidé de se rebeller, c'est en clair. Fait. Lui, quand Marine l'engueule, il va signer des papiers disant qu'on est d'accord pour accueillir des clandestins. Dans 8 jours, il débarque en Algérie. Salam les royas. En fait, on va ouvrir un centre d'accueil à Hénin-Beaumont. Vous nous les envoyez. Dans 6 mois, il rallie Mélenchon.
Sinon, il y a la comédienne Mimi Mathy qui a choqué en prenant la défense de son ami Patrick Bruel.
Oui, elle réagissait à l'annulation de la tournée de son ami Patrick. Elle a déclaré « Patrick Bruel est un séducteur qui a été plus harcelé que harceleur ». Alors, elle est en fauteuil roulant maintenant, hein, vous avez vu. pas à cause de Bruel. Hein.
Non, non.
Je en tout cas, j'ai hâte de regarder le prochain Joséphine Ange Gardien. Bonjour Patrick, je suis ton ange gardien. Que puis-je faire pour toi? Il y a 32 connasses qui portent plainte contre moi, qui essayent de me casser les noix. 32! Je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Ben, demande peut-être à un autre ange gardien.
Bonsoir, je suis Jacques.
Jacques l'ange. Jacques l'ange gardien. 32 plaintes, mais c'est rien. Mon ami Epstein en avait des milliers. Réjouis-toi, le bonheur va revenir dans l'île aux enfants, c'est tous les jours de printemps. Allez, à demain.
C'est fini là ?
Ben ouais, c'est fini.
À la pute.
La suite demain. Je sortirai un coffret DVD.
Allez, dans un instant, la politique. Il faut que je me remette la tête dans le bon sens. Mon invité, c'est Olivier Faure. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste et il est candidat à l'élection présidentielle via la primaire de la gauche. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h27.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victoire Pourchet.
Réaction en France au lendemain de la victoire de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand dans la région de Saxe-Anhalt. Le moment est grave, écrit le ministre de l'Europe Benjamin Haddad. Résultat et démonstration catastrophique des politiques centristes, fustige Jean-Luc Mélenchon. Un signal d'alarme dont on doit tirer les enseignements pour l'élection présidentielle à venir, selon le candidat Gabriel Attal. Réclamé depuis des années par les associations, la loi intégrale contre les violences sexuelles arrive à l'Assemblée nationale. Première étape en commission spéciale, c'est-à-dire des députés qui vont en affiner le contenu. Elle sera ensuite examinée dans l'hémicycle au premier jour de la rentrée en octobre. Deux militants d'ultra-droite devant les juges à partir d'aujourd'hui. Le procès de l'assassinat de Federico Martina Rambourou s'ouvre aujourd'hui. C'était il y a 4 ans, l'ex-rugbyman était abattu en pleine rue à Paris. Un candidat de plus dans la course à la présidentielle, c'est le patron des communistes, Fabien Roussel, désigné par un vote de son parti à 72%. À l'élection de 2022, il avait obtenu seulement 2,28% des suffrages. La météo avec ses 6 départements du Sud qui sont en vigilance orange canicule aujourd'hui. L'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme. Il fera de 22 degrés à Brest jusqu'à 36 à Lyon avec pas mal de nuages cet après-midi sur le Nord-Ouest.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Tout de suite, le face-à-face sur RMC avec Olivier Faure, le patron des socialistes.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions. D'ailleurs, c'est la première fois que vous vous exprimez ce matin dans une interview depuis votre annonce de candidature la semaine dernière aux 20h. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, vous êtes député de Seine-et-Marne et vous êtes candidat à l'élection présidentielle via la primaire socialiste. Beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, je voudrais savoir si vous connaissez l'expression en anglais « an elephant in the room ». Ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr.
Hein, c'est littéralement un bon gros éléphant qui est au milieu de la pièce, qui est absolument omniprésent, mais dont personne ne parle. Ça vous dit quelque chose ?
À qui pensez-vous ?
Est-ce qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce, là ? Quelqu'un qui serait omniprésent et dont vous faites tous semblant de ne pas voir qu'il est là ?
Je le vois.
Oui, vous le voyez. Et il prend de la place.
Il prend sa place et il a choisi un autre chemin qui n'est pas le mien. Son chemin est celui d'une alternative plutôt au centre, pour ne pas dire à droite. Et moi, je ne me suis pas engagé au Parti Socialiste pour...
On a tous compris que vous parliez de François Hollande.
Mais je vais peut-être faire ma phrase, vous dire que...
Et vous dites qu'il est de droite ?
Non, j'ai dit qu'il cherchait en fait aujourd'hui sa voie avec une alliance entre droits. Et moi, je ne me suis pas engagé au Parti Socialiste pour appliquer, 14 ans après, le programme de François Fillon.
Là, vous parlez sans doute de la TVA sociale ?
Ben, par exemple, oui, je ne suis pas sûr que prendre l'impôt le plus injuste comme référence, ce soit la bonne façon d'entrer dans le débat.
Alors reprenons les choses dans le bon sens, parce qu'évidemment, je m'amusais avec vous sur cette expression anglaise, mais parce que j'en voyais pas d'autres. Littéralement, de fait, un éléphant, c'est aussi un membre du Parti Socialiste. Historiquement, c'est comme ça qu'on les appelait. Au fond, depuis que vous vous êtes vraiment lancé dans cette campagne, à la fois vous, Raphaël Glucksmann, dans cette campagne de la primaire, il y a François Hollande qui prend en effet toute la place, qui est en campagne sans le dire, qui fait des propositions, qui lance un livre, qui donne des interviews, comme si la primaire n'existait pas.
Il a fait ce choix, ce n'est pas le mien, vous le savez. Moi, j'ai fait un choix qui est un choix démocratique. J'ai voulu cette primaire. J'ai voulu qu'elle ait lieu parce que il n'y a rien de pire que les primaires sauvages. Regardez ce qui se passe à droite. Des candidats qui se multiplient sans que personne ne connaisse le terme et le moment où ils sont capables, peut-être, de se mettre d'accord pour avoir un seul candidat. Et donc, la primaire, elle a cette vocation-là. Permettre à un camp politique de dire, oui, il y a des différences, oui, il peut y avoir même des divergences entre les candidats, mais elles sont tranchées par des électrices et des électeurs, et j'appelle toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans nos combats à nous rejoindre en allant sur le site du Parti Socialiste et à s'inscrire pour cette primaire et faire en sorte que le plus grand nombre puisse y venir et donner une légitimité très forte à celui ou celle qui sera finalement élu.
On va revenir sur ce que vous appelez les différences, voire les divergences avec les autres, mais puisque vous répondiez immédiatement à propos de François Hollande que, semble-t-il, il prenait des décisions qui rappelaient les programmes de François Fillon, vous faites donc référence à cette proposition de François Hollande. Il parle d'une TVA qu'il passerait de 20 à 24% et en échange, une TVA à zéro sur un certain nombre de produits de première nécessité. Pour vous, ça, c'est une mesure de droite ?
Je ne vais pas la qualifier. Je vais dire simplement que c'est une mesure dont on sait qu'elle est en réalité nocive pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Pourquoi ? Parce que si vous baissez la TVA à 0%, y compris sur les produits de première nécessité, qui sont pour l'instant autour de 5,5, eh bien, la réalité, c'est que ce sera très vite rattrapé et que ce seront les marges des entreprises que vous réaliserez à travers cette TVA qui aura baissé, mais que ça n'aura pas de conséquences sur les consommateurs. Et moi, je préférerais qu'on agisse autrement. Et surtout qu'on ne rattrape pas cette baisse de TVA chez les uns en faisant en sorte qu'elle est en fait qu'elle soit
officiellement
4 points de plus sur la TVA.
Non seulement il a été président socialiste, mais il est toujours membre
du
Parti socialiste.
Mais par ailleurs, moi je ne comprends pas cette logique qui n'est pas d'ailleurs exclusive à François Hollande, qui est de dire que désormais il faudrait que les salaires puissent augmenter simplement par un canal, celui de la baisse des cotisations. C'est ça l'objectif au départ, c'est de dire on va faire baisser les cotisations. Mais les cotisations,
et
c'est quoi ?
Compenser donc par cette hausse de TVA.
Voilà. Et c'est quoi les cotisations ? Les cotisations, c'est tout simplement ce qu'on appelle le salaire différé. C'est quand vous avez un accident du travail, c'est quand vous êtes malade, c'est quand vous êtes à la retraite. Cet argent-là, il ne sert pas à rien. C'est pas de l'argent qui vous est prélevé pour jamais. C'est de l'argent qui vous est préservé soit pour vous garantir contre les difficultés, les accidents de l'histoire, de votre existence, ou au contraire, de permettre votre départ à la retraite dans de bonnes conditions.
Mais comment vous ferez, pour augmenter les salaires des Français ?
Tout simplement, la première chose, c'est que, en fait, regardez ce qui se passe sur le partage de ce qu'on appelle la plus-value depuis des années et des années. Aujourd'hui, le capital engrange essentiellement et les salariés ont la part la plus modeste. Eh bien, moi, je souhaite que, par exemple, quand on distribue 1 euro de dividende, eh bien, il y a au moins 1 euro qui est reversé aux salariés. Que ce soit équitable. Parce qu'il n'y a pas de raison particulière de penser que le capital doit se servir.
Ça veut dire que ce serait une sorte de participation?
Participation, intéressement, salaire. Et donc,
1 euro pour les actionnaires, 1 euro pour les salariés.
Absolument. Il n'y a aucune raison que ce partage-là ne soit pas équitable. Et donc, voilà une première solution. Je souhaite que le SMIC soit augmenté parce que vous le savez très bien depuis les Gilets jaunes et bien avant les Gilets jaunes. On le sait bien aujourd'hui, travailler au SMIC, parfois même à temps partiel, ça ne permet pas de vivre. Et donc tous ces gens qui sont à un moment révoltés pour dire on travaille mais on ne peut même pas vivre. Comment voulez-vous que l'on fasse ? Eh bien moi je crois qu'effectivement il faut augmenter le SMIC. Il faut faire en sorte aussi qu'au-dessus du SMIC, il y ait une conférence salariale. Vous savez que il y a eu un rapport sénatorial qui dit qu'il y a 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises versées chaque année. Eh bien, qu'il y ait une conférence tripartite, patronat, syndicat, État, au cours de laquelle on vienne conditionner les aides aux entreprises à des efforts sur les salaires, sur la formation, sur l'emploi, faire en sorte qu'il y ait à un moment une forme de contrepartie qui soit donnée à ces aides qui sont des aides massives. Et à partir de là, on a de quoi effectivement faire en sorte que tout le monde puisse être augmenté parce que aujourd'hui, les Français ne vivent pas bien.
Vous parlez de l'augmentation du SMIC, vous parlez de l'augmentation des salaires et dans le même temps, vous demandez 15 euros à ceux qui veulent juste voter pour la primaire ?
Non, moi j'ai pas demandé 15 euros, j'ai dit 2 euros. J'ai malheureusement
été...
Comme vous le dites, on a eu un vote. Le vote a tranché pour 10 euros tarif social, 15 euros tarif normal. Et ce n'était pas mon point de vue parce que moi, je cherche au contraire à ce que nous ayons un espèce de game changer en mauvais français. C'est-à-dire que nous puissions, dans cette élection, dire qu'à un moment, il y a des centaines de milliers de gens qui se sont rassemblés et qui ont fait un choix.
2 euros, c'était le prix de la primaire socialiste de 2011 qui avait ensuite porté François Hollande au pouvoir. 15 euros. Vous avez effectivement perdu la partie sur ce combat-là. Qui a insisté pour 15 euros? Il se murmure que c'est Raphaël Glucksmann qui était en faveur des 15 euros, vous des 2 euros. Ça dit quelque chose de votre vision de la gauche, de ceux qui doivent voter?
Ça dit quelque chose, bien sûr. Ça dit quelque chose parce que moi, je considère que nous ne pouvons pas revenir à un vote censitaire. On ne peut pas faire un choix sociologique des gens qui peuvent voter et ceux qui ne peuvent pas voter. Donc j'espère que si d'autres nous entendent ce matin, ils feront peut-être le choix dans les prochains jours de dire effectivement on s'est trompé, on va baisser le tarif.
On peut revenir en arrière ?
Ah ben on peut toujours revenir en arrière.
Donc là en fait vous êtes en train de lancer un appel à Raphaël Glucksmann en disant renonce aux 15 euros, mettons-nous d'accord sur 2 euros.
Ah ben oui bien sûr, je souhaite qu'effectivement on puisse mettre d'accord sur 2 euros. Mais je respecte...
C'est encore possible donc ?
C'est possible jusqu'au dernier jour, en réalité. Mais je ne le crois pas, parce que je suis revenu tout l'été sur cette question, en essayant de faire bouger les positions des uns et des autres.
Mais pourquoi ce tarif ?
Ben, je crois que c'était la volonté de dire qu'il fallait un engagement puissant, et donc que ça supposait...
Mais est-ce que ça exclut une partie des gens qui voudraient voter, vous pensez ?
Ben, forcément. J'étais ce week-end à faire le tour des associations pour les forums de rentrée. Dans ma circonscription, et vous pouvez l'imaginer, nombre de ceux qui me soutiennent depuis longtemps veulent voter. Mais quand on leur dit que c'est 10 ou 15 euros, ils disent bah c'est beaucoup, parce que c'est la rentrée des classes, parce que il faut acheter des vêtements pour les enfants, les fournitures scolaires, c'est la rentrée pour tout le monde, et donc c'est très compliqué de rajouter effectivement 10 ou 15 euros à ce qu'on a déjà acheté.
La question du tarif, la question de qui participe, on évoque le nom de Mathieu Pigasse ou de François Ruffin pour pouvoir y participer. Est-ce qu'ils ont pris attache avec vous en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste? Est-ce que vous savez s'ils commencent à essayer de recueillir des parrainages?
Alors, je ne vais pas entrer dans les détails sur les parrainages, parce que les parrainages s'appliquent uniquement pour les socialistes. Chaque parti a ses propres règles. Et donc, si François Ruffin était admis dans cette primaire, les règles d'admission seraient en réalité celles de son parti. Voilà, moi ce que j'ai dit...
Mathieu Pigasse, il n'a pas de parti. Est-ce qu'il pourrait quand même venir ?
Moi ce que j'ai dit aux uns et aux autres, c'est que pour ma part, je ne m'opposerai à aucun. Je souhaite que cette primaire, vous le savez, moi je souhaitais une primaire qui aille de Ruffin à Glucksmann, permettre que toute la gauche sociale
et
écologique
se retrouve. Donc vous souhaitez que François
Ruffin
soit candidat, vous estimez que ça ferait partie de...
Oui, ça fait partie de la logique que je défends depuis longtemps. Il faut à la fin un seul candidat ou une seule candidate qui permette de représenter cet arc qui est un arc démocratique, social, écologique et qui permette d'avancer et de gagner cette élection présidentielle.
Est-ce que Mathieu Pigasse est dans cet arc?
Je le crois, oui.
Est-ce que vous savez s'il est vraiment tenté sincèrement et sérieusement par cette
primaire ? Ça, vous lui poserez la question, mais il m'a pas dit s'il voulait y rentrer. Mais ce que je sais, c'est que si on me pose la question à moi, est-ce que je suis favorable à l'idée de bloquer à l'entrée de la boîte de nuit et faire videur celles et ceux qui veulent y rentrer ? La réponse pour moi, c'est non. Je vous l'ai dit, moi je veux que le plus grand nombre puisse participer à la primaire comme électeur, et je souhaite qu'il n'y ait pas de barrage à l'entrée pour ceux qui veulent y rentrer.
Vous avez vos parrainages
comme candidat.
Vous avez vos parrainages.
Oui, mes parrainages.
Vous, c'est bon, ça y est.
Oui,
tout est officiel, vous avez le tampon, vous avez
le tampon, ce sera le 15. Mais enfin, effectivement, les parrainages, c'est fait.
C'est fait. Les débats, il y a eu débat sur les débats. Vous souhaitez le plus de candidats, le plus d'électeurs, le plus de débats?
Absolument. Je souhaite que... Vous savez, une présidentielle, ce n'est pas simplement un long fleuve tranquille et on n'est pas nommé président de la République. C'est une confrontation qu'il faut assumer, accepter. Il faut être dans le combat et défendre ses positions, défendre ce que l'on croit. Et donc, moi, je souhaite effectivement qu'il y ait 3 débats, puisqu'il y a 3 offres qui nous sont faites
dont
par votre
celle
chaîne,
de BFM
par TF1,
TV,
LCI et par le service public. Et donc, je souhaite que dans ces trois propositions, nous répondions favorablement et que le débat puisse avoir lieu et que nous puissions, y compris, défendre nos positions.
Qui rechigne ? Pardon, mais j'ai quand même l'impression qu'en creux, vous égrenez que, voilà, il y en a un qui a mis la barrière à 15 euros, c'était pas vous, c'était Raphaël Glucksmann. Il y en a un qui, semble-t-il, rechigne à débattre aussi souvent que nécessaire pour créer, effectivement, ce grand élan populaire que vous souhaitez, c'est Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais vous poserez la question à l'intéressé. Moi, ce que je suis pas là pour commenter ce que dit ou fait Raphaël Glucksmann.
Mais il a peur de quelque chose, à mes yeux, c'est ça ?
Ce que je dis en tout cas, c'est que Personne ne devrait avoir peur du débat. Personne ne devrait avoir peur de la confrontation. Personne ne devrait avoir peur des électrices et des électeurs. Parce que de toute façon, pour gagner une présidentielle, il faut convaincre et il faut convaincre large. Et pour convaincre large, il faut d'abord convaincre sa propre famille politique.
Au-delà de la méthode, c'est quoi vos différences avec un Raphaël Glucksmann, avec une Ségolène Royal? Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Olivier Faure?
Ben, j'espère que les débats permettront de mieux le définir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distinguer.
J'ai regardé, vous êtes pour l'ordre juste, c'est encore une expression de Ségolène Royal, ça veut dire quoi? Une France plus juste, vous vous dites?
J'ai une France plus juste et je sors un livre dans quelques jours.
Je pense que personne n'est pour une France moins juste.
Mais écoutez, il y a des gens qui, en tout cas, font tout pour la rendre moins juste. Il y a des, enfin, quand vous écoutez ce que dit aujourd'hui la droite et l'extrême droite, je ne suis pas sûr que vous y trouviez là beaucoup d'arguments pour servir la justice. Quand ils sont là pour dire qu'il faut baisser les dépenses sociales, qu'il faut faire en sorte que d'en finir avec ce qui a été finalement le grand conquis du siècle précédent, la Sécu, franchement, je me dis que la justice, elle est totalement absente. Et moi, je défends, face au retour de la loi du plus fort, je défends la loi du plus juste. Voilà ce que je veux défendre dans cette élection. Faire en sorte que nous puissions être dans une situation où, à chaque fois que nous avons une décision à prendre, nous nous demandions quel est, en fait, le moyen de rendre la décision la plus juste possible. Et les sujets sont innombrables. Qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse de tous les sujets qui font le quotidien des Français, eh bien, aujourd'hui, je le dis oui, notre pays n'est pas un pays qui vit exclusivement de la justice.
Vous voulez la taxe Zucman? La voulez dès maintenant, dès le budget qui est en discussion?
Je sais que dans le budget qui vient, nous ne l'obtiendrons pas, puisque en fait, il y a une opposition très forte.
Mais l'année dernière, vous l'aviez pas obtenu, pour autant, vous n'aviez pas voté contre. Est-ce que cette fois-ci, ne l'obtenant pas, vous voterez contre?
Ma règle de vie, Apolline de Malherbe, elle est très simple. Quand je suis majoritaire, j'applique tout mon programme. Et j'essaye d'être le plus fiable et le plus cohérent possible, ce que j'ai toujours été depuis 8 ans que je suis premier secrétaire. Ensuite, si je ne suis pas majoritaire, j'essaie d'obtenir le maximum. Ce que j'ai obtenu l'an passé, c'était de revenir d'abord sur le musée des horreurs, qui était le doublement des franchises médicales, l'entrée dans l'impôt sur le revenu de toute une série de salariés, le fait qu'on ait toute une série de baisses d'indexation sur les retraites, notamment obtenu la suspension de la réforme des retraites, obtenu la hausse de la prime d'activité, obtenu le repas à 1 euro pour les étudiants. Voilà les concessions que nous avions obtenues. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas censuré. Nous n'avons pas adopté, mais nous n'avons pas censuré. Donc, quand je suis minoritaire, j'essaie d'obtenir. Et quand je n'obtiens rien, je censure. Et c'est ce qui a été le cas avec Michel Barnier et avec François Bayrou.
Et ça pourrait être à nouveau le cas cette fois-ci.
Et ça pourrait être le cas cette fois-ci encore. Parce qu'il n'y a aucune raison de servir de marche-pied.
Il y a encore une option selon laquelle vous ne censureriez pas?
Mais il va y avoir un débat. Moi, je souhaite que le débat ait lieu. Je souhaite que nous puissions avoir des arguments à servir aux Françaises et aux Français en leur disant voilà ce que chacun défend. Et j'espère même que dans ce débat-là, nous démasquerons l'extrême droite dont on voit ces jours derniers qu'elle est plus que floue et que c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'elle défend. Mais la réalité, c'est que quand on a un débat budgétaire, eh bien, les grandes options, elles sont posées sur la table. Et donc, je souhaite que ce débat ait lieu et qu'à la fin, nous puissions trancher. Mais ce que je vois aussi, c'est que l'an passé, Sébastien Lecornu avait, nouvellement nommé, la force d'imposer à Édouard Philippe, à Gabriel Attal, à Bruno Retailleau, les compromis auxquels nous sommes parvenus. Est-ce que quelqu'un pense aujourd'hui sérieusement que Sébastien Lecornu va pouvoir s'imposer à des candidats à l'élection présidentielle qui ne voudront aucun compromis avec la gauche?
Vous, c'est pareil. Vous non plus, vous ne voudrez aucun compromis.
Pardon, Apolline de Malherbe, j'ai fait la démonstration que je savais aller chercher des compromis et que je savais accepter le fait que...
Oui, quand c'était pas une année présidentielle.
Mais même dans une année présidentielle, simplement, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont prêts à rien. Déjà, l'an passé, ça a été très compliqué de leur faire admettre, par exemple, la suspension de la réforme des retraites.
Olivier Faure,
aujourd'hui, est-ce qu'il accepterait? La réponse est non.
Vous dites, donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir effectivement être majoritaire. Et donc, ce que vous voulez, c'est évidemment pas seulement gagner la primaire, mais c'est gagner les élections présidentielles. En tout cas, que votre camp gagne l'élection présidentielle. Quand on voit votre place dans les sondages, je suis surprise d'une chose. Je regardais à peu près à la même époque, pour l'année, pour l'élection précédente, Anne Hidalgo, qui était bien moins bien placé qu'un Raphaël Glucksmann aujourd'hui, vous l'avez quand même laissé passer, vous l'avez quand même laissé y aller. Vous n'avez pas été remettre en cause le fait qu'elle soit la candidate de la gauche. Pourquoi vous y allez cette fois-ci alors que pour une fois, vous en avez un qui est quand même un peu moins mal placé que les dernières années? Pourquoi vous allez challenger Raphaël Glucksmann? Pourquoi vous voulez pas être candidat?
Pourquoi est-ce qu'on fait des élections?
Ce que je veux dire, c'est que dans la même situation, Anne Hidalgo, alors qu'elle était honnêtement dans les choux, vous l'avez quand même laissé y aller.
La question, non, elle était à 10% autour de cette période-ci, et donc.
Quand j'ai regardé, elle était à 6,5 à cette période-ci, et elle a fini à 2.
Non, en septembre, elle est encore autour de 10. Et donc, elle était même pas candidate officielle au moment où on se parle, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que si vous pensez désormais que seuls les sondages l'élection, eh bien, arrêtons de faire des élections.
En aucun cas, simplement, je compare deux situations qui sont parfaitement comparables.
Acceptons désormais dans ces cas-là l'idée que...
Vous étiez déjà premier secrétaire du Parti Socialiste.
Vous savez très bien
pourquoi
que...
Pourquoi vous n'y avez pas été la dernière fois? Pourquoi vous y allez cette fois-ci?
Mais pourquoi vous n'avez pas en souvenir, par exemple, le fait que, je sais pas moi, Valérie Pécresse, elle était à 18 après son élection dans la primaire. Elle a fini à moins de 5. Vous avez eu des gens comme Éric Zemmour qui sont montés à 17, qui ont fini à 7. Fait. Et donc, voilà, moi ce que je dis, c'est que tant que l'offre n'est pas connue, forcément, il y a des préjugés, il y a forcément un débat qui maintenant va avoir lieu, et que dans ce débat, chacun aura à se révéler.
Dans ces débats, dites-vous d'ailleurs.
Oui, dans ces débats, et ces débats de la primaire, mais même ceux qui viendront après, parce qu'il n'y a pas que la primaire dans la vie. Et donc, moi, je souhaite effectivement que nous puissions développer une offre qui rencontre une demande et que, à la fin, eh bien, effectivement, nous soyons non pas à 5, à 10 ou à 15, mais que nous soyons à 20, parce que c'est certainement le seuil de qualification de cette présidentielle.
Olivier Faure, plusieurs questions encore. L'une, vous l'évoquiez sur le flou du Rassemblement National et notamment cet accord signé avec Nigel Farage par Jordan Bardella. Comment vous le comprenez?
C'est l'aveu d'une forme de soumission à des Brexiteurs. Enfin, je ne le comprends pas, en réalité. Comment accepter cette idée folle que désormais, en fait, on ferait le travail des Britanniques pour rapatrier sur notre sol, en fait, des gens qui sont en situation illégale? La réalité, c'est que chacun doit en prendre sa part et je ne vois pas du tout quelle est, en fait, l'idée saugrenue qui est passée par la tête de Jordan Bardella, si ce n'est qu'il a cru avoir un moment de gloire en allant signer avec celui qu'il espère être le prochain Premier ministre britannique. Mais voyez bien que, en fait, ces gens sont perdus, qu'ils ne savent pas. En réalité, il n'y a pas un sujet. En fait, ils font de la politique à l'ancienne, de la com permanente. Et vous voyez bien que ils ont été les alliés de l'AFD, ils ne le sont plus, parce qu'ils ont trouvé que c'était des témoins encombrants.
Ils ont rompu en 2014, en même temps, vous pourrez jouer que c'est rompu quand même.
Oui, je m'en réjouis. En même temps, je vois bien que, en fait, tout ça est totalement factice, que la réalité, c'est qu'ils ont été ensemble, et quand ils ont trouvé que c'était des alliés encombrants, ils s'en sont séparés. Mais, je vois aussi que, aujourd'hui, il y a une montée de l'extrême droite partout en Europe, et que nous devons être au premier rang pour se battre. Et la victoire de l'AFD, effectivement, en Saxe-Anhalt, devrait être pour chacun le moment d'une grande prise de conscience et se dire que ces gens n'ont pas changé en réalité. Quand vous voyez ce que l'AFD propose, il propose que les enfants soient séparés dans les classes, c'est-à-dire qu'on mette d'un côté les bons Allemands, de l'autre côté les enfants handicapés, et puis les enfants des réfugiés du droit d'asile. Et quand vous regardez qu'ils veulent même suspendre le fait que les enfants des écoles aillent dans les camps de concentration pour apprendre leur histoire, et qu'ils veulent en finir avec la repentance parce qu'ils ne veulent plus que le nazisme soit enseigné. Voilà, exactement. Eh bien, effectivement, là, il y a un sujet que chacun devrait saisir, et on devrait même avoir quelques frissons à l'idée qu'en Allemagne, c'est possible. Donc, ne faisons pas en sorte que la contagion vienne de notre propre pays.
Le Porge, au Radour-sur-Glane, sérieusement, qu'est-ce qui vous a pris ?
Écoutez, c'est une maladresse de ma part. J'ai repris, en fait, ce que certains m'ont dit sur place en disant, regardez, je pensais à quoi? Je pensais simplement au paysage de désolation dévasté parce que ces maisons, enfin, il faut imaginer, hein, 183 maisons brûlées dans un village qui en compte 240, je crois. C'est, en fait, une vision d'horreur.
Et mais en le disant, déjà, on voit sur votre visage que vous dites, ouh là là, où est-ce que je vais? Non? Pourquoi vous n'êtes pas tout de suite repris?
Mais j'ai dit, que je crois, enfin, je ne vais pas me citer de mémoire, mais enfin, j'ai dit, si je sais pas si je dois oser. C'est effectivement une maladresse. Il n'y a pas de comparaison possible entre ce qui s'est passé à Oradour, sur les causes d'Oradour et sur les causes du Porge. Simplement, c'était le paysage dévasté que je cherchais à définir. Ce n'était pas très intéressant, ce n'était pas très intelligent de ma part. Et je le regrette, mais évidemment, il n'y a aucun... Enfin, n'imaginez pas un seul instant que je puisse comparer deux situations qui n'ont rien à voir.
Merci Olivier Faure d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste et candidat à la primaire de la gauche. Il est 8h50 sur RMC et BFM TV.
Dans un instant, les GG sur RMC. Jusqu'à midi, vous allez pouvoir débattre de l'actu. Quel est le programme, Alain Marchal?
Eh bien, avec les grandes gueules et avec vous, au 32-16, on pourra évoquer le gel des prix du tabac. C'est ce que demande Marine Le Pen, alors que les buralistes sont en colère contre la fiscalité. Marine Tondelier, qui veut, candidate à l'élection présidentielle, qui souhaite que la France ait une loi pour interdire le mensonge en politique. Bruno Retailleau, qui veut faire inscrire l'héritage judéo-chrétien de la France dans la Constitution. Voilà, ce sont quelques-uns de nos sujets de discussion sur lesquels vous allez pouvoir intervenir au 32-16.